Mon nom est Antoine Garnier et je vous souhaite la bienvenue au 59e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Pour le premier épisode de 2021, je prends un peu de temps avec vous afin de refléter sur la dernière année de contenu qu'on a mis en ligne pour Hypercroissance. Dans tous les épisodes sortis en 2020, j'ai pris les 3 entretiens qui m'ont le plus fasciné et j'ai décidé de vous livrer les meilleurs extraits de ces mêmes épisodes. On commence avec le 34e épisode de Hypercroissance enregistré avec Luc Filiatro. Maintenant PDG de Mediagriffe, Luc nous expliquait de quelle manière il avait été capable d'amener sa première entreprise en hypercroissance avant d'être acquis par Québecor. Bonne écoute.
Tu sais, à travers le temps, on a fait toutes sortes de choses. On a développé un logiciel automatique pour la correction du bug de l'an 2000. Puis c'était probablement vers 94-95 à peu près. Et c'est ça qui nous a mis sur la map là, comme organisation véritablement internationale. Okay. Parce qu'avant ça, on était une business de logiciels, mais plutôt local au Québec. Mais à partir du moment où on a développé ce logiciel-là, écoute, on s'est fait contacter par des entreprises en Chine, des entreprises en Europe, des entreprises un peu partout aux États-Unis, qui nous demandaient d'aller régler leur fameux bug de l'an 2000. Et d'une manière très... C'est là que notre croissance là, s'est vraiment, vraiment accélérée énormément. Il y avait une demande très forte pour ce type de système-là. Et on a eu la chance, en fait, de développer quelque chose qui s'est avéré être coté par un groupe qui s'appelle le groupe Gartner, qui en informatique, c'est pas mal la référence. Là, c'est eux autres qui jugent les logiciels. Et ils nous ont jugés, après énormément d'efforts, comme étant le meilleur logiciel de conversion au monde.
Oh wow.
Pour régler le bug de l'an 2000. Et à partir du moment où on a eu ce rating-là, on faisait plus des ventes, on prenait des commandes. Et là, les clients littéralement faisaient la file pour commander nos logiciels. On avait, je dis pas qu'on pouvait faire n'importe quoi, mais on demandait des prix, on avait le contrôle de notre pricing. Et c'est là que la croissance a vraiment s'est mise à accélérer de manière fulgurante. Là, parce qu'auparavant, je sais pas, on engageait 1 ou 2 employés de temps en temps. Là, c'était rendu, je me rappelle la première fois que la personne qui s'occupait des ressources humaines, un moment donné, nous a dit, écoute, j'en ai 22 qui commencent ce matin, là, un lundi matin. Puis on engageait, là, c'était incessant. Là.
Mais parle-nous de ça un peu, tu sais, qu'est-ce qui vous a poussé à un certain point? Puis c'est ça que je veux qu'on discute aujourd'hui parce que c'est complètement fascinant que t'as fondé ou dirigé, parce que des fois, t'arrivais davantage en tant que dirigeant, des 4 entreprises publiques, là. Donc, tu l'as pas fait une fois, tu l'as fait 4 fois. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça. Accélération de croissance phénoménale après que vous avez eu le prix que tu nous as mentionné. Qu'est-ce qui vous a poussé également à ce moment-là de se dire, bon, là, c'est le temps de faire le saut, puis faut qu'on devienne une entreprise publique. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce que c'était de la pression peut-être de gens à l'externe qui disaient « c'est le moment que vous fassiez ça, vous avez besoin d'un flux de capital plus important si vous voulez passer à un autre niveau ». Quel a été l'élément déclencheur aussi?
Bien, en fait, c'est la croissance. Hein? Puis, qu'est-ce que c'est la croissance en fait? C'est que tu as plus de demandes que ce que tu es capable de fournir aujourd'hui. Et il y a une règle en affaires, les clients en général, ils te payent après qu'ils ont reçu qu'ils veulent avoir. C'est comme ça que c'est fait. Là. Si tu vas au restaurant, normalement, tu manges avant de payer. C'est bien rare les places qui font payer avant de manger. Il y a McDo qui fait ça. Oui, si tu vas manger au McDo, tu payes avant de le manger. Mais dans le domaine où on était, les clients payent après. Et on avait tellement de demandes, il fallait engager des gens, comme je mentionnais tantôt, là, 22 un beau lundi matin. Et tu commences à les payer le jour que tu les embauches, les gens. Tu sais, il y a des payes à faire une semaine ou 2 semaines plus tard. Et ce besoin-là d'engager, de développer, d'améliorer nos logiciels crée sur l'entreprise tout simplement un manque de liquidité. Tu as beau faire des profits, ben, tu peux réinvestir tes profits, mais c'est la croissance était tellement forte que c'était pas suffisant. Puis là, ben, tu tombes dans une mécanique où il faut que tu ailles chercher de l'argent pour être capable d'embaucher, de développer, de commercialiser. Puis cet argent-là, tu n'as pas mille façons, là. Tu peux le prendre à la banque, tu peux aller l'emprunter, mais en 1987, 8, 9, 10, là, les banques ne prêtaient pas à des compagnies informatiques. Les banques prêtaient à des compagnies de construction, à des usines, puis ils prenaient une pile de 2 par 4 en garantie, ils prenaient une bétonneuse en garantie, mais toi, compagnie informatique, tu avais quoi à donner en garantie? Tu n'avais rien du tout. Comme on disait à ce moment-là, les actifs prenaient l'ascenseur et retournaient chez eux le soir. Donc, tu n'as rien à offrir à une banque pour te financer. Et dans les années 90, le capital de risque, ce qu'on appelle le private equity, je sais pas c'est quoi le bon mot français, mais écoute, si ça existait, c'était très, très petit, ça commençait, mais je pense même pas que c'était encore là.
C'était pas la mode comme aujourd'hui.
Non, c'était pas là. La façon d'obtenir des fonds importants, c'était de recourir au marché public. Et ça, peu de gens le voient comme ça, mais la bourse a été inventée pour permettre aux entreprises d'obtenir du capital. La bourse n'a pas été inventée pour permettre aux investisseurs de gagner de l'argent. Quand la bourse a été inventée, là, quelque part autour des années 1900, du moins pour la bourse américaine, c'était l'ère industrielle. Les premières industries automobiles commençaient à arriver, les grands fabricants d'acier, etc. Puis construire une usine, ça nécessitait des capitaux très, très, très importants. Et les compagnies ne pouvaient pas emprunter de l'argent à une banque puisqu'il n'y avait pas encore vendu d'auto, d'acier ou de, je sais pas, de tracteur, peu importe ce qu'ils fabriquaient. Et le mécanisme de la bourse a été développé par le monde financier de l'époque pour dire, ben, ces entreprises-là vont se financer en émettant des actions, puis ça va permettre les investisseurs vont faire un meilleur rendement que s'ils avaient mis leur argent à la banque. Et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes mettent un petit peu d'argent, mais ça finit par en faire assez pour que l'entreprise réussisse à construire son usine, démarrer ses affaires et éventuellement commencer à faire des ventes et offrir du rendement à ses actionnaires. Donc, c'est pour ça que nous sommes devenus publics en 98 chez Information, parce que la demande pour nos logiciels qu'on avait pour la croissance de l'an 2000 était énorme. Il fallait mettre beaucoup de monde partout en même temps. Vous pouvez voir qu'il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Là. Les logiciels, on les downloadait pas à travers un site web. Il fallait aller les porter chez les clients, il fallait aller les installer, les faire fonctionner, les configurer. Et pour ça, il fallait envoyer des gens. Il fallait envoyer des gens à travers la planète. C'est clair qu'il y avait un timing. Parce que tu peux dire, oh, ben, je vais y aller petit à petit. Si tu y vas petit à petit, ton problème, c'est qu'il est probable que quelqu'un d'autre va aussi avoir une idée similaire. Est-ce qu'il va avoir un produit aussi bon? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, ta concurrence va commencer à prendre des parts de marché. Donc, si un coup qu'un client il a choisi une solution, il l'a choisi, il reste avec. Il change pas en cours de route pour prendre la tienne. Fait que les clients, faut que tu ailles les voir vite, pour les signer vite, pour les installer vite. Et pour ça, ben, faut que tu mettes beaucoup de monde en parallèle qui vont faire les démarches de façon à gagner ces projets-là, commencer à les exécuter, les faire. Et ça prend du capital. Ça prend la capacité d'engager les gens. Puis ça fait partie de ton avantage concurrentiel. Plus vite tu te mets en marché, plus vite tu contrôles le client, ben, moins tes concurrents peuvent prendre des parts de marché.
Effectivement.
Et ça sert à ça de devenir public. Puis bon, on a fait les démarches, nous, probablement vers la fin 97 qu'on a commencé à se renseigner puis à s'éduquer sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. C'est un processus assez long, c'est un processus assez lourd, mais ça nous a permis à l'époque, en 98, si je me souviens bien des chiffres, on a pu mettre la main sur 35 millions de dollars, ce qui était énorme à ce moment-là. Là. Énorme, énorme, énorme. Écoute, en 98, moi j'avais quoi? J'avais 33 ans. Donc, tu sais, 35 millions de dollars, c'était l'infini.
Ouais.
C'était l'infini. Et ça nous a permis d'acquérir des entreprises, ça nous a permis d'embaucher les gens qu'il fallait embaucher. Et ben, ça s'est bien développé. Là. La suite de l'histoire a bien continué.
Mais parle-moi un peu de ça, parce que là, vous avez fait votre IPO en 98. Toi, corrige-moi si je me trompe, je pense que tu as quitté l'entreprise en 2000, c'est ça?
Effectivement.
Donc, t'es pas resté tellement longtemps dans l'aventure publique. Est-ce que c'est qu'à un certain point, tu trouvais que finalement, le pouvoir que tu avais quand tu étais une entreprise privée, le pouvoir, la manière d'opérer ton organisation était plus la même quand tu es arrivé public? Est-ce que c'est une raison différente? Qu'est-ce qui a pu se passer ici?
Pas du tout. Là, ça n'a rien à voir avec le fait que l'entreprise était publique. Si je te raconte l'histoire, en fait, c'est pas longtemps après qu'on est devenu public, l'histoire du fameux bug de l'an 2000, là, ça commençait à baisser, évidemment. Et ce qui devenait très, très, très à la mode, c'était l'Internet. L'Internet était nouveau. Moi, j'ai eu mon premier email en 1997. Alors, fait que c'était nouveau. Puis là, les premiers sites web commençaient à apparaître. Et probablement quelque part, je sais pas, début ou peut-être milieu 99, on a commencé à acheter des entreprises qui faisaient de l'Internet, qui faisaient des sites web. Et je me souviens très bien, on en a acheté une petite qui était à Québec, qui à cette époque-là avait fait un des premiers sites web de IGA, si je me souviens bien. Et à un moment donné, on s'est intéressé à acquérir une entreprise qui s'appelait Intellia. Alors, cette entreprise, elle est bien connue. Le dirigeant principal était Alexandre Taillefer et son collègue Martin Le Sauteur. Malheureusement, Intellia appartenait à 85% au groupe québécois. Donc, bien qu'ils en étaient les deux dirigeants, ils n'en étaient pas les pleins propriétaires. Donc, si tu veux acheter une entreprise, il faut que tu ailles parler à son propriétaire. Tu parles pas juste à son dirigeant. Et le propriétaire de Intellia était québécois, par M. Pilado, Pierre-Carl Pilado. Et pas très longtemps après avoir eu quelques discussions avec Alexandre et Martin, on s'est ramassé dans le bureau de Pierre-Carl. Puis on a dit, Pierre-Carl, on aimerait ça acheter Intellia. Pierre-Carl a dit, pas question. Moi, je veux pas vous vendre Intellia. C'est l'avenir, l'Internet, le web. Mais bon, on était un peu déçus. Pierre-Carl nous regarde et dit, mais je serais peut-être intéressé, par contre, moi, à vous vendre Intellia, mais à acheter les deux ensemble après, en garder la propriété des deux. Puis connaissant le développement que vous voulez faire, non seulement je suis prêt à faire ça, mais en plus, je vais rajouter de l'argent dans la cagnotte pour vous permettre d'aller encore plus vite. Ça commençait à être plus intéressant. Et quelques mois plus tard, là, on a ficelé toute cette transaction où finalement, Intellia et Informition se sont mises ensemble. Québecor avait une bonne partie des actions, mais l'entreprise a continué d'être publique. Ce qui fait que je suis parti, moi, pas très longtemps après la transaction, c'était plutôt le changement de culture majeur que Québecor a amené en tant que nouveau propriétaire. Ça fonctionnait pas avec ma façon de voir les choses et je suis tout simplement parti pour dire non, c'est pas comme ça. C'était pas le fait que l'entreprise soit publique, bien au contraire. Et je suis même resté, moi, au conseil d'administration jusqu'en 2007 où j'étais toujours présent au conseil d'administration du groupe Neuron qui appartenait à Québecor.
On continue avec l'épisode qui a littéralement suivi celui de Luc. On parle ici de la discussion que j'ai eue avec Kevin Pilu au mois de juillet 2020 où il était venu nous parler de son pivot extraordinaire réussi. Pour les gens qui n'auraient pas écouté l'épisode, voici un peu de contexte. Kevin, qui est propriétaire avec son frère Gary de la course à obstacles Mud Girl, a vu son entreprise être totalement mise sur pause en mars dernier quand le COVID nous a tous frappés de plein fouet. En l'espace de quelques semaines seulement, il a su pivoter et lancer le premier spectacle d'humour au volant qui a fait salle comble très rapidement. Dans l'extrait qui suit, vous verrez donc de quelle manière l'équipe de Sportera a pris le taureau par les cornes afin de garder leur entreprise à flot.
Qu'on a fait quand est arrivée cette crise-là. Une chose qui est super importante en temps de crise comme ça, c'est de communiquer. Donc, que ça soit communiquer avec ses participants, communiquer avec ses employés. C'est une chose qui est, à mon avis, cruciale et qui a été cruciale pour de nombreuses entreprises. Je pense que celles qui n'ont pas communiqué efficacement avec leurs participants ou avec leurs clients, ni avec leurs employés, ça doit être plus difficile aujourd'hui. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait directement. À la première heure, le lundi matin, on a appelé tout le monde, on a dit « Ok, on se fait un meeting Zoom. » À l'époque, c'était pas aussi connu que maintenant, mais on se fait un meeting Zoom. Et puis là, on a communiqué avec tout le monde pour leur dire « Bon, voici ce qui se passe avec la billetterie. Voici ce qu'on a fait. Premier enjeu, on est obligé de mettre tout le monde au chômage technique. » Puis ça vient avec une autre chose qui est le fait de se protéger. La première des choses en tant qu'entrepreneur, quand tu vois ce qui arrive, c'est de protéger ton entreprise et tu dois protéger ce qu'on appelle tes assets, tu vois. Donc, de pouvoir faire des prévisions financières pour savoir jusqu'à quand t'es capable de tenir dans cette situation-là. C'est un deuxième enjeu. Troisième aussi, moi je dirais que c'est vraiment de prévoir. de prévoir la suite, de prévoir le futur. Dans une situation incertaine, c'est très, très compliqué. Mais nous, on avait déjà préparé un certain plan de retour, notamment au niveau de nos employés. Donc, on a commencé avec une personne qui a commencé à travailler à temps partiel, puis ensuite une personne qui a commencé à travailler à temps plein, puis une autre personne à temps partiel. Et au fur et à mesure, comme ça, on a reconstruit notre équipe jusqu'à ce que on crée quelque chose d'autre. Et là, on a réussi à embaucher tout le monde. Mais au début, on avait vraiment cet enjeu-là. Puis il y avait un quatrième enjeu aussi. Je parlais de communiquer tout à l'heure. Communiquer avec ses participants, en fait, c'est pour nous, c'était pendant la crise, qu'est-ce qu'on va laisser, comment on va se souvenir de nous par rapport à nos participants. Parce que eux, les participants, ils se retrouvent, ils sont dans la même situation que nous. Ça doit être sûrement difficile pour eux dans leur quotidien. Puis on l'a vu, quand on a annulé nos courses, c'était difficile pour les gens. Et ils nous l'ont fait savoir pour certaines personnes. Mais comment on communique avec eux et comment on les aide? Donc nous, ce qu'on a fait, on a créé une sorte de Mud Girl TV, entre guillemets. On a appelé des ambassadeurs, des entraîneurs qui nous ont aidés pour pouvoir rebâtir notre communauté et faire en sorte que notre communauté ne soit pas laissée à l'abandon comme ça. Il y a beaucoup de courses qui ont laissé les gens qui ont dit « Ok, c'est bon, moi j'arrête. Il n'y a plus de courses, il n'y a plus d'un an. On verra ça dans 6 mois, on verra ça dans 1 an quand on pourra reprendre. » Nous, on ne s'est pas arrêté. Donc on a créé une Mud Girl TV. Chaque jour, les gens, ils avaient 2-3, soit des entrevues de participantes, soit des entraînements de yoga, soit des entraînements à faire à la maison, etc. pour les maintenir actifs. Et les gens, ils sont confinés, ils sont chez eux, ils ont besoin d'avoir une activité, se changer les idées. C'est ce qu'on leur a proposé. On a fait pendant à peu près peut-être 4 mois, je pense. On avait proposé ce système-là. Donc voilà, ça résume un petit peu tous les enjeux qu'on avait, vraiment communiquer, prévoir, se protéger. Mais je pense que le plus gros enjeu qu'on avait en tant qu'entrepreneur, et je parle moi d'un point de vue personnel, c'est que pendant des mois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle est où la solution? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, et puis des compagnies, on en a créé avec mon frère. Pendant les 4 mois, on en a créé peut-être 10. Là, tu sais, j'ai déjà appelé pour d'autres projets et tout. À chaque fois, on disait, OK, faut faire ça, là, faut faire ça, faut créer ça. Jusqu'au jour où on a trouvé la chose qui nous allumait et qui nous disait, OK, ça, on va être capable de le faire. Parce que c'est facile d'avoir des idées dans la vie. Puis il y a plein de gens qui ont des idées. Moi, j'ai eu cette idée, Le plus important, c'est comment tu la mets en œuvre, cette idée-là, et comment tu fais en sorte pour que, c'est cette idée-là, elle se matérialise, et puis qu'elle se matérialise financièrement, mais.
Parce que c'est ça, tes options étaient limitées. Votre plus grande expertise, puis vous êtes bon là-dedans, c'est la création d'événements, c'est gérer des événements, c'est amener des gens à vos événements également. Mais là, il y avait pas beaucoup d'options sur la table. On s'entend, les lieux physiques, les rassemblements étaient proscrits, interdits. Puis on enregistre le podcast aujourd'hui en date du 14 juillet 2020. Il commence à avoir un déconfinement qui se crée, mais tout le monde a peur d'une deuxième vague encore. Donc, tu sais, on n'est vraiment pas sorti encore de tout ça. Puis là, c'est important de le dire, là, vous avez retourné la situation que je le disais plus tôt, mais j'aimerais ça qu'on retourne un peu à ce moment-là. Parce que moi, je me rappelle, c'était à peu près, je pense, au mois de mai. Tu m'as appelé, puis tu m'as dit, Antoine, est-ce que tu pourrais me présenter une relation d'affaires qu'on pourrait aller rencontrer parce qu'on a une nouvelle idée d'événement? Puis, c'était dans le coin du mois de mai, puis dans la première semaine de juillet, donc c'était quoi, le 4 juillet, je pense, vous avez fait votre événement à l'aéroport de Montréal. Donc, c'est quelque chose, là, si on fait le calcul, vous aviez une idée, l'idéation a commencé dans le coin du mois de mai, parce que je me rappelle quand tu m'avais appelé, c'était dans les... Vous commencez à penser, à matérialiser tout ça dans votre tête, et ça se crée, et c'est sold out 45 jours plus tard. Peux-tu m'expliquer, puis surtout expliquer à l'audience aujourd'hui, comment tu es capable de partir d'un « Hey, j'ai 15 événements » qui sont cancellés un après l'autre, ou du moins reportés. Je me retourne sur un dixième, je parle avec mon frère, je parle avec des collègues, je parle avec des gens de mon entourage, puis en 45 jours, on refait un événement, parce que c'est ça que vous avez fait avec le Festival au volant, et on est capable d'être soldats. Parle-moi un petit peu de ce pivot-là, parce que c'est complètement exceptionnel.
Ouais, c'est sûr, c'est même moi, des fois, j'ai du mal à m'en rendre compte, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on a créé plusieurs entreprises avec mon frère dans le cours. Tu sais, c'est le problème un peu des entrepreneurs, ils veulent toujours avoir de la solution pour tout. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut vraiment avoir la drive et la passion de faire quelque chose. Et je pense que nous, on a une passion pour les gens, l'humain, et pour l'événementiel. Et donc, pour nous, faire des événements, c'est ça qui nous drive. Donc, il a fallu trouver une solution par rapport à ça. Et la deuxième des choses, je pense qu'une chose que j'ai appris pendant le confinement, c'est que c'est pas les plus gros qui s'en sortent, c'est les plus rapides. Et nous, on avait cette capacité-là à être volatile, pas être volatile, mais je veux dire à être versatile et de pouvoir changer notre entreprise et utiliser notre force dans quelque chose d'autre. Mais c'est juste, il fallait trouver quoi. Et c'est ça qui a été difficile, de trouver le truc. Puis un jour, dans les nombreuses idées qu'on a eues avec mon frère, on voyait qu'en Europe, il y avait eu des concerts ou des DJ qui venaient avec des voitures, etc., etc. Et nous, on avait déjà commencé avec l'idée de cinépark parce qu'on avait vu à un moment donné que le cinépark de Boucherville, il avait fermé. Et on s'est dit, mais attends, le ciné-parc de Boucherville, il ferme, mais c'est une erreur totale parce qu'au final, c'est ça que les gens vont vouloir faire cet été. Donc, tu vois, on était déjà en mois d'avril, je pense que c'était en avril qu'ils l'ont annoncé. Et, mais c'est ça que les gens, ils vont vouloir faire. En été, avec la pandémie, etc., c'est, il va falloir trouver des solutions pour faire en sorte que les gens, ils puissent accéder à la culture ou qu'ils puissent accéder à des événements. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on devrait ouvrir un ciné-parc. Elle était venue de là, l'idée, je pense. Un ciné-parc. Puis après, on s'est dit, bah, non, mais en fait, finalement, ça serait cool de faire un truc pour la Saint-Jean. Parce que la Saint-Jean, c'est nice, les gens, ils vont vouloir, tu sais, c'est quand même une fête importante au Québec, viens, on fait quelque chose pour la Saint-Jean, avec de la musique. Mais après, on s'est dit, ouais, mais la musique dans une voiture, c'est poche. C'est vraiment poche, la musique, autant être dans ta radio, quoi. Puis après, on s'est dit, bah, écoute, il y a un autre truc que nous, notre première de nos valeurs, c'est le plaisir. Dans notre entreprise. Et puis, nous, on aime ça, donner du plaisir aux gens. Puis, on s'est dit, rien, quoi de mieux que de l'humour pour, donner du plaisir aux gens dans ces temps de pandémie-là, de redonner le sourire aux gens, de donner une manière de sortir et de s'amuser. On s'est dit, bah, tiens, on vient, on crée le premier festival au vol. Et, le mot est, c'est, on a vraiment trouvé le nom tout de suite. On était en plus pris dans le côté, regarder la série Tiger King, là, sur Netflix. Et on avait parlé, tu vois. C'est pour ça que d'où le mot fauve est sorti, parce que on voulait jouer là-dessus avec le tigre, on voulait faire une pub avec le gars de Tiger King. Puis au final, festival au volant, bah, ça donnait super bien. Le mot fauve, ça donne super bien. Et voilà, c'était parti, quoi. Donc, on a démarré là-dessus.
Mais là, c'est beau d'avoir un nom, c'est beau d'avoir un concept, mais là, en 45 jours, trouver les humoristes, trouver l'endroit, rebâtir un site web, rebâtir un brand, vendre des billets. Combien vous en avez vendu des billets? Des milliers, là. C'est des milliers de personnes qui sont
venues. Ouais, ouais, 4000 personnes qui sont venues approximativement. Donc ça a été, ouais, mais en fait, c'est sûr que, tu sais, peut-être un jour, si j'écris un livre plus tard, c'est ça que je dirais, mais c'est le plus important, c'est que t'as besoin d'avoir le parachute avant, tu sais, pour sauter, là.
Ouais, ouais.
Mais en gros, tu sais, tu peux te,
mais attends,
tu peux
penser en affaire.
Ouais.
L'expression, c'est un entrepreneur, il va se tirer en bas de l'avion puis il va créer le parachute en retombant, voilà. Bon, un truc comme ça. Bref, c'est le concept.
Un truc comme ça. Mais bref, en gros, t'as pas besoin d'avoir de cadre d'affaires pour lancer une entreprise. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que, bah, déjà, on a l'avantage d'être bien entouré. Je pense que c'est un avantage pour un entrepreneur, pour des entrepreneurs, pour une entreprise. Faut s'entourer. Faut connaître des gens. Tu sais, on a la chance de vous connaître, vous, J7. C'est un support. On a beaucoup été aidés pendant la pandémie. Vous avez pris des nouvelles de nous, etc., etc. T'sais, on faisait pas de business ensemble. On avait arrêté de faire des publicités. Et on a continué à avoir cette relation d'affaires, qui est à mon avis super importante. On a aussi l'avantage d'avoir nous des actionnaires ou des partenaires d'affaires, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous ont. Ça, c'est important. Tu sens que t'as un soutien. Tu sens que t'es pas tout seul. Il y a aussi nos employés, tu sais, qui ont été là pour nous aider. On a même des gens qui nous ont aidés bénévolement, tu sais, à s'en sortir. Parce qu'au début, tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à un moment, on était dans une période où, je reviens un petit peu en arrière, mais quand on annule 17 événements comme ça, on parle de à peu près 50, 70 000 personnes à qui tu dois écrire pour leur dire, au fait, juste pour vous dire, votre événement, il aura pas lieu cette année, il aura lieu l'année prochaine. S'il vous plaît, ne demandez pas de remboursement, sinon il y aura plus d'événements. C'est un peu ça. Je fais un topo là, mais on a écrit statement sur statement, des communiqués sur communiqués sur communiqués. Il a fallu les corriger, les recorriger, les re-re-re-re-corriger pour envoyer la bonne communication. Et puis, tu sais, ça nous est arrivé de travailler le soir jusqu'à 22h, 23h à répondre à des gens qui nous disaient, bah, moi, j'ai besoin de $50 parce que j'ai besoin d'aller à l'épicerie, je veux mon argent. Donc, tu vois, tu sors de ça. Ça a pris du temps, ça, déjà, de finaliser ça, peut-être à 2 mois facile. Et puis après, à un moment donné, bah, quand tu sors de ça, t'as des idées un peu plus claires. Là, tu dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais?
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agangacommercialj7media.com, donc A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, média au singulier, .com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours.
Le fait d'avoir des partenaires, d'être bien entouré, je pense que c'est ça qui nous a particulièrement aidé. On a appelé un de nos partenaires d'affaires qui s'appelle Jean-Sébastien Boudreau, qui est notre avocat et partenaire chez Sportera, et qui était aussi président d'une ancienne fondation qu'on avait dans le passé. Et qu'on avait au final mis de côté, on faisait plus d'événements avec la fondation, des événements avec notre entreprise. Et là, on a décidé, bah tiens, ça serait le parfait moment pour relancer cette fondation-là. Donc nous, notre entreprise s'appelle Sportera et on a décidé de nommer notre fondation Artera. Donc voilà. Et puis Artera a plusieurs objectifs. C'est vraiment, tu sais, de redonner. Nous, on a une passion pour le sport, mais aussi une passion pour l'art. Et donc au final, ça, c'est un peu naturel de créer cela. Ah, c'est juste qu'on n'avait pas le temps de le faire dans le passé, mais là maintenant on a eu un petit peu plus de temps. Et en fait voilà, on veut aussi, on s'est aussi aperçu que la culture au Québec, ça l'est encore aujourd'hui, elle a été délaissée. Puis ça, c'est une réalité. Elle a été délaissée. Je veux pas dire par qui, parce que je veux pas rentrer dans la politique ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça, du fait que, bah, tu sais, on a un peu délaissé les artistes, mais je pense même pas aux artistes, je pense aux techniciens, je pense aux tous les hommes et les femmes de l'ombre, qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Et nous, quand on a vu ça, tu sais, on s'est dit, waouh, tu sais, on doit faire quelque chose, on est capable d'aider ces gens-là, tu sais, à retrouver un travail, tu sais, on n'est pas des bons samaritains non plus, tu sais, on pense aussi à notre entreprise, à nos employés, mais on veut que la culture, on veut faire rayonner la culture c'est super important au Québec, et on s'en est rendu compte ces derniers mois, que ce soit l'humour, l'art vivant ou d'autres types d'art, mais il y a un vrai amour du Québec pour la culture, et ça, c'est quelque chose sur lequel on voulait vraiment miser, et c'est la raison pour laquelle on a parti aussi ce festival.
Puis, vous lancez ce festival-là, vous avez l'idée de lancer ce festival-là, mais là, vous avez des noms assez impressionnants qui viennent, qui sont venus d'ailleurs. Bon, il va y avoir bientôt à Drummondville les Denis Drolet qui vont être là. Il y avait beaucoup de... Je pense que vous avez eu Rachid Badouri qui est venu en invité surprise dans l'événement à Montréal. Comment que tu arrives, en l'espace de quelques semaines, on le disait plus tôt, de trouver les contacts, d'amener ces humoristes-là, de trouver l'emplacement également? Tu sais, c'est beaucoup de logistique en très peu de temps. C'est beau d'avoir des partenaires, mais il a fallu que tu fasses les choses plus rapidement que jamais, là, Kevin.
Ouais, tout à fait. En fait, des fois, c'est des hasards de circonstances dans la vie. Il s'avère qu'en fait, à la base, on a demandé à un ami à nous de devenir booker. Finalement, ça s'est pas fait pour X, Y raison. Et à ce moment-là, on a une de nos employées qui nous dit, vous savez quoi, mon meilleur ami, lui, il est booker pour tel bar à l'époque. Il faisait des soirées d'humour. On dit, ah ouais, ok, génial, très bien, mets-nous en contact. Bim, dans la journée, ça s'est fait. Le booker, il nous appelle, il nous dit, écoute, oui, moi, je peux vous booker. OK, moi, mon prix, c'est tant. OK, parfait, très, très bien. On commence. OK, vous voulez qui? OK. Donc, nous, on a commencé à faire une liste de noms. Tu sais, que ça soit des, bon, c'est sûr qu'on allait dans le très, très gros ou dans le moyen ou dans le, tu sais, on a sorti une liste de tous les humoristes au Québec qu'on voulait de nous. Et au final, les humoristes, ils ont adoré l'idée. C'est ça le retour qu'on a eu. Ils ont adoré l'idée et ils ont dit, puis comme ils étaient pas bookés, ça nous a permis de les booker plus facilement. Puis le premier nom qu'on a signé, en fait, c'était Mehdi Boussaïda. Et en fait, pour nous, on trouvait ça génial parce que Gary et moi, on est fans, on adore. C'est une super personne. Je le connaissais un peu dans le passé et tout, et puis j'adore ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et je trouve que voilà, il a ce côté, tu sais, jeune, très dynamique, rien ne lui fait peur. Tu sais, il veut jouer dans des voitures ou jouer devant un ascenseur, il s'en fout du moment qu'il est là et qu'il joue. C'est un showman. Et au final, nous, on l'a booké au début. Et on a lancé l'information dans les médias. Donc, on a eu de la chance d'avoir des médias. Mais quand on a, notre plus gros enjeu, on va dire, c'était qu'on n'avait pas de lieu. Et en fait, on a lancé, c'est pour ça que je parlais du parachute tout à l'heure et je parlais de la carte d'affaires, c'est qu'on a lancé l'événement Fauve sans avoir de lieu. On a défini une date au hasard. Enfin, au hasard. On s'est dit, en un mois, on va être capable de vendre autant de billets. Mais on a dit, on sait pas. Parce que le problème, c'est que c'est pas qu'on se faisait refuser. C'est que, comme tout le monde travaillait pas. Ça mettait du temps à avoir des réponses. En même temps, les règles de confinement, de déconfinement, elles changeaient au fur et à mesure, chaque semaine, donc c'était un peu compliqué. Par contre, là, on a eu énormément de chance. C'est que le jour où on a annoncé que le festival au volant allait avoir lieu à Montréal, du 3 au 5 juillet, une heure après, et je sais pas pourquoi on a eu cette chance-là, le gouvernement a annoncé que les cinéparcs étaient autorisés. Donc nous, on a lancé un truc 100%, parce que c'était aussi un autre enjeu, c'est qu'on savait même pas si on avait le droit de le faire, mais on avait quand même des contacts à Santé publique, on avait des contacts au gouvernement qui nous disaient « oui, ça va être bon ». Donc nous, on l'a annoncé, une heure plus tard, le gouvernement annonce que les cinéparcs sont autorisés. Comme nous, c'est une activité type cinépark, mais avec des humoristes, on s'est dit « ok, good, parfait, let's go, on y va, on fonce, on continue sur cette chance, on va dire ». On a un humoriste, on annonce dans les médias. Et en annonçant dans les médias, je dis pas qu'on n'avait pas de lieu, ça veut pas dire qu'on n'avait pas contacté de lieu, on avait contacté une dizaine, on avait des choix en fait. Mais c'est juste que les choix nous plaisaient pas tant que ça. Parce que soit c'était complexe, soit il y avait pas assez de places de stationnement. Tu sais, on avait des endroits avec 250 places, 300 places. Nous, on voulait minimum 400. Et en lançant, bim, le lendemain, on reçoit un mail de l'aéroport de Montréal. Enfin, Indigo, en fait, les parcs Indigo, pour nous dire, hey, les gars, c'est génial ce que vous faites, j'adore, je tripe, venez chez nous. Et ok. Puis on a commencé les négociations. On n'avait pas encore ouvert la billetterie. On avait juste annoncé que l'événement allait avoir lieu à Montréal. Mais on n'avait pas de lieu définitif. Et au final, après négociation avec, c'est même pour Parc Indigo et l'aéroport de Montréal, c'est quelque chose de tout nouveau pour eux. Parce que là, tu te rends compte, pour eux, ils ont l'habitude, c'est des stationnements pour des employés. Et ils se retrouvent à accueillir un festival avec des voitures, mais avec des humoristes. Donc, c'est quelque chose de totalement, totalement, totalement différent. Et à côté de ça, nous, on avait la liste d'artistes qui commençait à rentrer, à rentrer, à rentrer. On commençait à avoir des artistes arriver, arriver, arriver. On s'est dit, waouh, c'est génial, il y a un vrai engouement des artistes. Et on s'est dit, c'est le moment de closer le lieu.
La dernière partie du 59e épisode de Hypercroissance est un extrait qui provient de ma discussion avec Guillaume Bouchard, ancien président de Hyperspec Canada. Dans une entrevue de près d'une heure, Guillaume était venu nous partager les étapes à suivre afin de vendre son entreprise sous forme de earn-out. Une discussion que j'ai trouvée très intéressante, sachant que j'œuvre dans la même industrie.
Qui est comme tombé en amour avec la compagnie puis qui a dit, vous, c'est sûr que quelqu'un va vous racheter un moment donné, vous êtes, comme tu dis, un peu là, à l'avant-garde de ci, de ça. Il a voulu s'associer à nous, il est rentré comme actionnaire. Mais moi, quand je suis rentré comme actionnaire, j'ai dit, tu sais, c'est cool tout ce que tu dis, mais tu sais, on n'est pas à vendre, puis moi, ça m'intéresse pas de vendre. Puis j'avais un discours très similaire à ce que l'équipe, la gang d'Adviso ont souvent eu dans le marché, tu sais, de voir un peu comme faire LG2 puis passer au suivant, puis tout ça. J'étais beaucoup dans cette mentalité-là. Puis, de fil en aiguille, il a structuré un peu l'entreprise. Il a aidé au niveau, mettons, plus corporatif, les contrats. Tu sais, mettre des choses plus... il y avait un avocat de formation, il a travaillé chez Yahoo, il a mis chez Jessica, il a mis beaucoup de choses en place. Puis, il nous a aidé à aller chercher nos premiers, je dirais, clients tier one, des clients plus nationaux, qui avaient un plus gros budget, plus de... Je pense, je me souviens, Reader's Digest, par exemple, ou la banque TD, qui a été un grand gain avant l'acquisition. Ça a changé un peu notre perspective. On est devenu un petit peu plus, au lieu de devenir un peu le King of the Hill du Québec, on a essayé de devenir vraiment plus une compagnie pan-canadienne. On a ouvert le bureau. À Toronto, on avait 3 personnes quand même, malgré qu'on avait 30-40 à Montréal. On était rendu à quand même un peu plus de pénétration à Toronto. 25-30% de notre chiffre d'affaires venait de là parce qu'on focussait beaucoup sur nos efforts de vente. Puis là, on est arrivé un peu une croisée des chemins pour un peu revenir à ton point où est-ce que on était la plus grosse compagnie en 2013 indépendante. Dans ce qu'on faisait là, en performance numérique, mais on n'avait pas accès à faire les plus gros pitchs parce que souvent les pitchs étaient organisés pour un pitch de médias 360 ou un pitch de numérique 360. Puis dans les deux cas, on n'avait pas 100% des capabilities. Donc on se ramassait souvent dans une situation où est-ce qu'on veut vous donner la job, mais c'est un des Big Six qui le ramasse, un OMG, Publicis, Dentsu. Parce que Cossette n'étant pas là dans les Big Six internationales, mais dans les Big Six, je dirais au Canada, oui. Mais tu sais, on était pognés comme ça. Fait qu'on pouvait jamais bider, puis il fallait se mettre avec quelqu'un d'autre. Puis tu sais, c'était jamais aussi solide que les grands holdco. Fait qu'à un moment donné, le CEO, cerveau, mettons, de gauche, puis le shareholder du côté droit de mon cerveau s'est dit, faut faire un move, faut que je cristallise, qu'on cristallise les 7-8 dernières années d'efforts qu'on met dans cette entreprise-là, en mettre un peu de côté. Et en même temps, c'est le meilleur move d'un point de vue CEO pour la croissance de la business parce que il faut qu'on se mette à jouer dans la cour des grands avec ces joueurs-là puis qu'on soit nous qui servent les GM, les Transat, les Target de ce monde. C'est là qu'on est rendu. Fait, ça a fait un peu pivoter notre thinking. Puis là, pour faire une blague, Jean-François Leduc, mon partner, nous attendait un peu dans le détour avec ça, a préparé un peu une tournée. Puis là, on a fait le tour d'à peu près une cinquantaine de entreprise, dont les Big Six. Puis, on s'est ramassé assez rapidement avec plusieurs offres, plusieurs conversations. Ça a descendu à 8. Puis après ça, on s'est ramassé à 3 qui avaient un intérêt et qui ont présenté une offre formelle.
Intéressant. Parle-nous un peu là, de ce moment-là. Tu fais la tournée. Fait que finalement, j'imagine un petit peu vous préparez un deck. Vous êtes clair dans vos intentions. Vous allez cogner aux portes. Vous dites, voici la situation dans laquelle on est. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
L'exemple de, mettons, ce que je fais dans Contextual aujourd'hui, peut-être que ce sera le sujet d'un autre podcast ou d'une conversation plus tard, mais si on reste sur Hyperspec, une chose qu'on avait mis au clair tout le monde, c'est que aller chercher des acheteurs, se faire signer un LOI, faire un due diligence, faire un closing, ça prend beaucoup de temps, c'est un misfocus épouvantable, puis dans un contexte que l'acheteur te check aller pendant que tout ça se passe, c'était un gros enjeu. Fait que les 4 partners qu'on avait à l'époque, on s'est assis, puis on s'est partagé les rôles, puis clairement, JF était notre point man, si on veut, qui a rassemblé un peu la liste originale, qui a bâti un genre de document d'une 20aine de pages, qui est un genre d'executive summary détaillé de où est-ce qu'on était, notre position dans le marché, où est-ce qu'on s'en allait, etc. puis un peu shop around, comme je disais tantôt. Puis, quand les conversations se sont approchées plus des présentations plus en personne ou avec les gens, ben là, moi, j'ai été un peu plus impliqué avec lui. Fait que j'avais le rôle du bon cop, lui avait le rôle du bad cop, puis on a avancé, dans le fond, dans la négociation avec les joueurs. Puis là, il y a eu une fin de semaine que je me rappellerai toujours, forcément, où est-ce que les deux derniers bidders sont en train un peu de surenchérir. Puis là, on est comme, ben, on vous donne encore 24 heures, puis là, on signe avec quelqu'un, puis de choisir qu'est-ce que ça allait être notre destinée. Fait que ça, c'était quand même un moment intéressant. En même temps, tu sais, les conversations avaient lieu aussi sur les évaluations. Puis là, on voyait qu'il y avait quand même une grosse partie qui était plus sur la performance qui allait arriver après la transaction. Mais c'est un moment assez intéressant. Là, j'ai une vidéo, le même stylo que j'utilise encore de quand j'ai signé ma lettre d'intention, le truc de closing à 3h30 du matin, quand on a fait l'annonce puis tout ça. Là. Fait que ça, c'est quand même des beaux souvenirs.
Ben, tu as utilisé un mot qui est intéressant, destiné, parce que, il faut le mentionner, la transaction que vous avez conclue, elle ne se terminait pas quand tu signais le deal, parce que on en a parlé, toi et moi, ensemble, dans d'autres conversations. Cette transaction-là s'est faite, comme je l'ai dit en début de podcast, sous forme de earn-out, donc sur les performances que ton organisation allait faire pour les années à suivre. Donc là, parle-nous un petit peu de ça. La transaction se fait, on va le dire, c'est ça, c'est Dentsu Aegis qui a gagné le bid, hein, c'est ça qui s'est passé. À partir de là, c'est comment s'installe cette dynamique de travail-là? Est-ce que Dentsu te donne le plein contrôle de faire ce que tu fais en disant « voici les objectifs à atteindre, puis on va se faire un touch point à tous les 3 mois » Comment que ça s'installe? Comment que ça se met en place, tout ça?
Mon expérience a été vraiment positive avec le groupe. Tu sais, ce sera jamais exactement comme toi tu t'imagines comme entrepreneur, parce que sinon tu serais resté simple. Tu serais resté à gérer ta propre entreprise. Je pense que la philosophie puis l'esprit de ces entreprises-là, ça reste quand même de faire un environnement où est-ce que tu vas réussir à avoir du succès, je dirais au minimum à court, moyen terme. Après ça, c'est sûr que c'est dur de dire. L'organisation elle-même peut s'amener à se transformer. Un petit fait cocasse, nous, quand on était en train de vendre, puis on était dans notre dernier mille du due diligence. Dans le fond, Dentsu a acheté Aegis, parce que nous, c'était Aegis qui était en train de nous acheter. C'était une londonienne. Puis Tokyo, dans le fond, Dentsu a acheté Aegis un mois avant que Aegis nous achète. Fait que nous, quand on voit cette transaction dans les journaux, 5 milliards, nanana, on est comme, bon, ben, tu sais, notre chien est mort, ils vont tout mettre sur la glace. Puis là, ils nous appellent le lendemain. Non, forcément, ça fait longtemps qu'ils étaient au courant puis qu'ils travaillaient là-dessus. Fait qu'inquiétez-vous pas, toute la business continue. Fait que cette logique-là, au début, tu sais, puis je pense que c'est un petit peu ça le danger d'un earn-out long. C'est qu'au début, il y a vraiment une ouverture, là, faut que tu comprennes comment les systèmes marchent. De toute façon, le holding est pas capable de t'absorber dans tous ces systèmes overnight. Fait qu'on a gardé un grand contrôle, je dirais, les fonctions support, là, le HR, la finance, le IT, le légal. On est resté un peu dans notre cocon opérationnel, si on veut, pour un bout de temps. Mais au fil, puis on nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour 5 ans, là, que ça reste comme ça. Mais au fil du temps, on voulait jouer aussi l'intégration. Fait que, tu sais, après la 3e année à peu près, là, on a plus décidé de mutualiser à peu près tout ce qu'on faisait. On trouvait que ça faisait du bon sens. En général, ces entreprises-là veulent quand même que tu réussisses. Puis aussi, dans les contrats qu'on signe, s'ils agissaient dans une façon pour nuire à ton earn-out, par exemple, ben, t'as moyen d'aller dans un genre d'arbitrage. C'est sûr que tu seras toujours le petit joueur, mais dans le petit joueur, dans une situation comme ça, peut avoir quand même le bénéfice. Puis Dentsu Aegis n'a pas intérêt à avoir plein d'entrepreneurs fâchés. Fait que, tu sais, nous, on a signé puis on a embrassé au sens large la vision de Dentsu, qui était de dire, on a un PNL au Canada. Toutes les agences travaillent pour un PNL. Fait que, dans le fond, on va travailler entre nous à être les meilleurs face aux clients. Au lieu de faire une chasse où est-ce qu'on a chacun nos agences, notre propre PNL. Là, il y a moins d'intégration. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas une chose facile, parce que Dentsu Aegis est parti de 200-300 personnes quand moi j'étais là, à peu près 1500 personnes 5 ans plus tard. Fait que, tu sais, la compagnie était plus 3-4 agences qui travaillaient ensemble à, OK, il y a 15 agences dans le network juste au Canada. Fait que, tu sais, ça a été une énorme adaptation pour tout le monde. Tu sais, puis je pense que, tu sais, Dentsu Aegis Canada est devenu quasiment plus gros que beaucoup d'autres marchés par rapport à leur taille, qui était très positif. On était numéro 2 ou 3 dans le marché au lieu d'être numéro 4 mondial comme Dentsu est partout. Mais c'est un environnement, c'est ça, je pense que c'est de mettre ça au clair le plus vite possible puis d'avoir confiance aux gens avec qui on travaille. Mais habituellement, quand on est sur un autre, on a une certaine, une good way, là, mais une certaine protection morale sur beaucoup de choses. Puis financière aussi, là, c'est où il y a certains recours. Après ça, tu sais, il faut que ça ait été bien négocié, il faut que les choses soient claires, il faut que vous ayez une confiance dans les gens avec qui vous travaillez, il faut que ces gens-là restent en place aussi. Parce que c'est pas comme, mettons, un business familial où est-ce que le père, il va pas disparaître. Tu sais, ça peut que le président du Canada de Dentsu Aegis Network qui a voulu nous acheter s'en va 2 ans après. Ben, moi, j'étais encore 3 autres années. Fait que toute cette dynamique-là, c'est sûr que ça, c'est, il y a de l'artifice un peu dans tout ça. Mais, tu sais, overall, il y a eu 2 phases, moi, je pense, dans l'acquisition. La première phase où est-ce que on, pas juste lune de miel, mais on a vraiment travaillé ensemble. On a vraiment bien essayé de s'intégrer. Ça allait super bien. Le network allait super bien aussi. Puis après ça, je pense que toutes les old co en 2016-2017 ont eu beaucoup de fil à retordre. Les actions avaient perdu un quart de leur valeur. Il y a eu énormément de pression financière sur ces compagnies-là. Fait que tu sais, c'est sûr que ça change un peu la donne par la suite. Nous, particulièrement au Canada, on avait été bien affectés dans plein milieu du earn-out. On a eu on a perdu à peu près 30-40% de notre chiffre d'affaires après 2 semaines de notre nouvel exercice financier. Target a fait faillite, qui est à peu près notre plus gros client, puis on a eu des projets que je nommerai pas, là, mais qui ont été mis sur la glace, qui étaient hors de notre contrôle, jamais au procurement à l'international. Fait que tu t'en vas du jour au lendemain, là, tu as un chiffre d'affaires à peu près assuré de 9-10 millions. 2 semaines après, tu t'es assis sur 6 millions, mais tu as du staff pour 10. Ça a vraiment pas été une. Puis là, tu le sais que cette année, si tu l'écrases, ben ça va faire très mal à ton earn-out. Fait que c'est des décisions difficiles. Je trouve que moi, un des plus grands défis que j'ai eu, c'est là, faut que tu choisisses. Le CEO et le shareholder, quand ils ont vendu la compagnie, étaient parfaitement alignés. Mais pendant les 5 années, des fois, il fallait que je me parle entre moi et moi-même pour prendre la bonne décision, tu sais, pour moyen et long terme pour l'organisation. Ça, c'est vraiment pas évident. Puis plus un out est long, plus ça devient pesant, je dirais, cette sensation-là ou ce feeling.
J'espère que les différents extraits partagés aujourd'hui agiront comme une dose de motivation pour vous afin de débuter l'année en force. Si vous aimeriez écouter les épisodes au complet, sachez que je faisais mention des entretiens 34, 35 et 41. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement séparées à G7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.